Bonsoir. Province du Nord Kivu, Beni, était une ville morte hier après les violents affrontements qui ont opposé les FRDC à un groupe milicien Mai Mai. Commerces et écoles sont restés fermés. Le bilan fait état d'une trentaine de morts selon certaines sources. Comment analyser cette situation? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce soir. Trois invités participent à cette émission. Bwanakawa Masumbuko, maire de la ville de Beni. Monsieur le maire, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Honorable Grégoire Kirotsongo, député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire des libéraux à l'Assemblée nationale. Il est élu de la ville de Beni, au Nord Kivu. Honorable Kiro, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Alayrou.
Professeur Wendwa Eluga Essi, politologue et professeur à l'IEC Uvira au Sud Kivu. Il est directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur Bouendoua, bonsoir.
Bonsoir Alain et tous les autres.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les activités ont repris normalement ce matin à Beni après une journée ville morte hier. Ceci après des violents affrontements entre les FRDC et les miliciens Mai Mai. Les commerces ont rouvert, même cas pour les écoles. Mais les habitants souhaitent un renforcement des mesures sécuritaires pour protéger la ville. Le maire de Beni rassure, tout est en place pour sécuriser la population et ses biens. Retour sur la situation à Beni avec Martial Papi Mukeba.
La vie a repris depuis ce matin à Beni. Les banques, boutiques, magasins, stations de carburant ont réouvert depuis 8 heures, heure locale. Plusieurs écoles primaires et secondaires de la ville ont fonctionné normalement. Même cas pour le marché central de Kilokwa et les centres commerciaux de Matongé. Les taximens des motos ont occupé leur parking depuis tôt le matin. Une réponse de la population à l'appel du maire de Beni de vaquer librement à leurs occupations. Nyoni Bwanakawa a lancé cet appel hier à travers les radios locales rassurant que la situation est sous contrôle. Mais les habitants interrogés dans les rues de la ville sont encore inquiets. Ils souhaitent un renforcement des mesures de sécurité à l'intérieur et l'extérieur de Beni. Ceci pour éviter de nouvelles incursions des hommes armés dans la ville. De son côté, les maires de Beni rassurent. Selon Nyoni Bwanakawa, des dispositions permanentes de sécurité sont en place sans donner plus de détails. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Merci Papi Martial Mukeba. Pour sa part, la MONUSCO indique que les différentes brigades de la mission continuent à travailler dans le cadre du mandat leur dévolu, c'est-à-dire la protection des civils. Mais par rapport à la brigade d'intervention et la situation d'hier matin à Beni, le porte-parole de la MONUSCO affirme que sa mise en place se poursuit et qu'elle ne peut pas à ce stade être opérationnelle du fait que tous ses effectifs ne sont pas complets et qu'elle ne dispose pas encore de tout son matériel. Par ailleurs, la MONUSCO se réjouit de la réaction des FRDC qui ont la situation en main. Madno Jomunubai, porte-parole de la MONUSCO, est au micro de Billy Yvan Lutumba.
D'abord, il faut pouvoir faire la part des choses. La brigade d'intervention qui va venir sera basée d'abord à Goma. Pour le moment, la brigade est en train d'arriver. Les éléments sont en train de se mettre en place, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore opérationnelle. Les troupes qui sont sur place sont en nombre insuffisant, ils n'ont pas encore reçu leur matériel. Vous semblez dire que les troupes de la MONUSCO qui sont sur le terrain depuis là ne font rien et attendent seulement que la brigade vienne. Ce n'est pas vrai. Les différentes brigades de la MONUSCO qui sont sur le terrain ont toujours travaillé, ils ont un mandat, ils travaillent pour la protection des civils, ils travaillent avec les FRDC, donc ces soldats ne sont pas inactifs. À ce que j'ai compris, les FRDC ont réagi à ce qui s'est passé ce matin dans la ville de Beni pour repousser les assaillants et contrôler la ville.
Bonaka Masumbuko Onyoni, vous êtes maire de la ville de Beni. Monsieur le maire, est-ce que vous confirmez que le calme est revenu à Beni et que toutes les activités ont repris normalement?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je, comme vous-même vous l'avez dit et vous l'avez appris par le reportage de monsieur Fatih Moukeba qui est basé sur place à Beni, la population a repris à partir de ce matin à recommencer à vaquer à ses différentes occupations respectives et c'est un grand soulagement pour nous parce que tenant compte de ce à quoi nous avons assisté hier, les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo avec l'événement Maïmaï, l'atrocité ou bien avoir ce à quoi nous avons assisté, on ne pouvait pas penser que déjà aujourd'hui les activités reprennent. Et Dieu merci parce que tout a été en ordre aujourd'hui et avoir la ville, quelqu'un qui passerait seulement aujourd'hui en ville de Beni, ne pouvait pas penser que hier elle était en proie à des affrontements sérieux. C'est à quoi nous remercions sincèrement notre population.
Monsieur le maire, avez-vous des précisions concernant le bilan, puisque jusqu'hier, 32 miliciens, 4 soldats tués, dont un officier supérieur, ça c'était selon le commandant du premier secteur FRDC, alors que les sources indépendantes parlaient de 17 tués côté force loyaliste, 6 assaillants capturés. Est-ce que vous avez des précisions par rapport au bilan?
Oui, en tant que autorité politico-administrative locale, je vais vous donner la réalité de ce bilan. Réalité pour avoir été sur le lieu où les différentes dépouilles ont été regroupées à l'issue des affrontements. Réalité aussi parce que qu'il s'agisse de Maïmaï, qu'il s'agisse de FRDC, j'ai été au centre, disons, l'élément moteur quant à ce qui concerne leur enterrement. Je porte à l'attention de l'opinion nationale que, en termes de bilan, définitivement, ou bien même je peux parler de provisoirement, parce que il y a des blessés, surtout du côté de Maïmaï. Mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a 33 décès du côté de Maïmaï. Nous ne pouvons pas nous réjouir de leur mort parce que ce sont nos compatriotes qui sont tombés à cause, pour avoir été trompés par certains autres compatriotes. Ces 33 morts de leur côté, nous ne nous en réjouissons pas. Et les capturés jusqu'alors, ils sont plus ou moins au nombre de 12. Le temps pour nous de pouvoir vérifier les identités des autres personnes qui ont été capturées la nuit d'hier à aujourd'hui, pour voir combien vont rester en termes de capturés, et combien qui peuvent avoir été arrêtés, disons interceptés, parce qu'ils ils se seraient retrouvés à un mauvais endroit au mauvais moment.
Et du côté des FRDC, monsieur le maire, est-ce qu'il y a un bilan?
J'y vais. Du côté des FRDC, nous avons perdu un lieutenant-colonel à la personne du regretté Clavert. Nous avons perdu un sous-lieutenant. Son nom m'échappe un peu. Et enfin, nous avons perdu un caporal. Là, c'est un terme de militaires véritablement actifs. Comme le centre Losakaf constitue le centre de regroupement des recrues à travers le Grand Nord. Le Grand Nord, c'est le territoire qui part de la limite avec entre les territoires de Lubero et les territoires de Rutshuru jusqu'à la limite avec le
territoire
de Ituria en province orientale.
Monsieur le maire.
J'y vais.
Alors vous voulez dire
que sont regroupés au niveau du centre de l'Ozakaf. Alors quand les assaillants sont arrivés, ils ont tiré pêle-mêle et dans cette foulée, nous avons perdu aussi 5 recrues. Ça fait que du côté des FRDC, nous avons perdu 8 personnes, soit 3 militaires actifs et 5 recrues.
Alors, monsieur le maire, comment vous expliquez cette incursion au niveau de la ville de Beni, où il y a quand même les FRDC qui sont là, il y a la police. Comment vous expliquez cette incursion?
Je vais rectifier une chose. Il ne faudra pas parler de quand même. Il y a effectivement la présence des FRDC et la présence de la police. Et comment j'explique cette incursion? Les Maïmaï, il faut comprendre que nous n'avons pas une limite naturelle avec le territoire de Beni, qui est le réservoir naturel de ces différents groupes armés. Et aussi, il faut aussi compter le territoire de Lubero, voisin au territoire de Beni. Et ces deux territoires ont un relief ainsi qu'une végétation qui permettent que ces différents groupes armés vivent soit dans des brousses, soit dans certains villages. Comment expliquer ces différentes incursions? Ils viennent, et pas en tant que véritablement groupe armé, certaines personnes peuvent avoir à les croiser en cours de route et penser que ce sont des paisibles citoyens.
Merci
beaucoup. Ce sont des personnes qui ont en elles le germe de la mort. Et c'est comme ça, bon,
vous voyez,
la nuit, quand ils viennent nuitamment, alors que tout le monde est déjà dans sa case ou bien dans sa propre maison.
Et donc ils sont
presque
difficilement identifiables. Voilà, honorable Kiro, je redonnerai la parole tout à l'heure à monsieur le maire Bwanakawa Masumbuko Nyoni, maire de la ville de Beni. Honorable Kiro, vous êtes député national de l'opposition, membre du groupe parlementaire des libéraux à l'Assemblée nationale. Vous êtes élu de la ville de Beni. Comment vous avez accueilli cette situation? Vous avez vécu cette situation?
Oui, c'est une situation vraiment dramatique et je commence déjà par présenter toutes mes condoléances et ma compassion à toute la population meurtrie de Beni. Et je voudrais rappeler que tous ces maïmaï et consorts, ils ne sont pas à leur premier coup parce que la population de Beni et des environs souffre depuis longtemps effectivement de l'activité de tous ces groupes rebelles. Et là, je dois dire que nous avons toujours fustigé l'absence de l'État dans cette partie du territoire national. Et à ce titre, je dois dire que nous avons, quand je dis nous, ça veut dire les députés du Grand Nord, ainsi que toute la société civile de Beni, ainsi que les notables, ça veut dire les anciens députés, etc., du coin, nous avons toujours fustigé le fait que cette partie du territoire semble abandonnée par le gouvernement central. Et ce qui arrive maintenant ne peut pas nous surprendre parce que pas plus tard qu'il y a une semaine, nous avons interpellé le ministre de l'Intérieur pour lui dire, mais écoutez, là-bas la situation est explosive. Il y a des enlèvements à répétition, il y a des groupes armés qui se baladent, qui font tout ce qu'ils veulent. Et il n'est pas normal que le gouvernement central ne réagisse pas. Nous lui avons dit cela. Il a été interpellé. Moi, personnellement, je lui ai demandé au ministre de l'Intérieur s'il était fier de son bilan à la tête de son ministère avec tout ce qui se passe là-bas sur place. Donc, nous ne pouvons pas donc être surpris. Et nous fustigeons aussi les services de renseignement civils et militaires. Je vais le suivre, monsieur le maire de Beni, que je salue au passage d'ailleurs, qui vient de dire que il est difficile de détecter tous ces maï-maï parce que ils ne viennent pas en tenue, ils sont comme des civils. Il est difficile de faire le distinguo entre eux et la paisible population. Mais justement, les services de renseignement sont là pour détecter ce genre d'individus. C'est ça leur travail. Leur travail, ce n'est pas de traquer les paisibles citoyens. Les paisibles citoyens qui sont en ville de Béni ou en territoire de Béni, non. Leur travail, c'est de traquer tous ces gens-là qui se font passer pour de paisibles citoyens, alors qu'en réalité, ce sont des agresseurs.
Alors, honorable Kiro, vous êtes élu de la ville de Béni. D'après vos sources, est-ce que vous avez quelques précisions sur ces assaillants? Est-ce que vous pouvez, d'après vos sources, vous pouvez savoir qui sont-ils? Quelles étaient leurs revendications?
En ce qui concerne les revendications, je dois vous dire que je n'en sais absolument rien. Même si j'ai appris que, en réalité, ils ont attaqué parce qu'ils voulaient libérer certains de leurs complices qui étaient emprisonnés à Béni. Quant à savoir de qui il s'agit exactement, il est vraiment difficile que je me prononce parce que je sais que le coin regorge de différents groupes maï-maï. C'est une nébuleuse finalement qu'on ne sait même pas bien identifier véritablement. Et il est difficile de savoir de quel groupe il s'agit. De toute façon, il y en a plusieurs dizaines. C'est vraiment difficile de savoir qui a attaqué, qui n'a pas attaqué. Donc, c'est vraiment compliqué.
Alors, on se souvient qu'au mois de mars dernier, le gouverneur Julien Paluku a organisé ce qu'on a appelé le dialogue social au niveau du territoire de Béni. Il y avait plusieurs groupes armés. Il y avait les confessions religieuses, la société civile, mais avec beaucoup de résolutions à l'issue de ce dialogue social, visiblement, c'était un échec.
Non, je crois que le dialogue social n'a pas été un échec parce qu'il y a eu quand même il y a eu des résultats palpables. Est-ce que vous savez qu'il y a par exemple certains chefs rebelles qui s'étaient rendus à l'occasion de ce dialogue-là? Donc ne serait-ce que par cela, on ne peut pas dire que c'est un échec. Par contre, ce sont les mesures d'accompagnement qui apparemment n'ont pas suivi. Et les mesures d'accompagnement devraient venir pas de Béni ni de Goma, non, elles devraient venir de Kinshasa. Kinshasa doit mettre à la disposition de la province, à la disposition de la ville, à la disposition de tout le monde qui est sur terrain là-bas, suffisamment de moyens pour continuer à mettre en place des structures telles que, par exemple, tous ces gens qui viennent de la forêt, qui reviennent des montagnes, ils soient pris en charge. Ne serait-ce que d'une manière, de manière à ce que les autres aient aussi le courage de venir.
Et donc, vous dites que il y avait quand même des avancées, certains miliciens qui s'étaient rendus, mais si un milicien se rend et deux rentrent dans la forêt, c'est assez compliqué, honorable.
Oui, c'est vrai. En tout cas, l'initiative du dialogue de Oïcha, moi, je l'ai soutenue et je continue à en soutenir les résolutions, sauf que bon, elles n'ont pas été suivies d'effet, malheureusement. Est-ce que vous rendez compte que, en ce qui concerne par exemple les enlèvements, les trois prêtres qui avaient été enlevés en Mbao il y a quelques mois, ces trois prêtres-là avaient été, à l'occasion de ce dialogue-là,
allez-y,
retrouvés. Ils avaient été retrouvés. Il y a quelqu'un qui avait dit au cours du dialogue que les trois prêtres ont été identifiés dans un endroit donné. Mais personne n'a jamais daigné aller les rencontrer ou bien mener la moindre démarche pour essayer de retrouver l'endroit où ils se trouvent. Donc c'est simplement une question de suivi.
Et donc au niveau de la ville de Béni, l'insécurité a pris des proportions très inquiétantes.
Non, mais la situation sécuritaire au niveau de Béni, elle est catastrophique.
Parce que le maire lui-même a...
Le maire lui-même
a été presque l'objet d'un... a échappé à un assassinat.
Oh oui, il y a une semaine ou un peu plus, la résidence du maire de Béni a été attaquée. Ça veut dire que si on sait s'en prendre comme ça impunément au symbole de l'État, le maire c'est quand même lui, l'autorité politico-administrative, le représentant du gouverneur, le représentant du chef de l'État à Béni. Si on sait s'attaquer à sa résidence comme ça, ça veut dire qu'on ne respecte plus rien, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État. Et figurez-vous que la résidence du maire a été attaquée, certes, il y a 7 ou 10 jours, mais avant cela, il y a quelques mois,
c'est la mairie qui avait été attaquée. La mairie qui avait été attaquée à l'occasion. Il y a même la paix des fonctionnaires qui avait été raflée. Donc ça, ce sont des signes qui montrent que finalement les couvents sont plus en sécurité que les édifices publics.
Mike nous appelle de Bounia, nous allons prendre sa réaction.
Mike Bassa, à partir de Bounia, en province orientale. Je pense que le gouvernement congolais est distrait en attendant l'arrivée des forces internationales, au lieu de protéger la population et d'être bien qui est de sa mission régalienne.
Honorable Kiro, est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, j'ai l'impression que tous les représentants du gouvernement qui s'expriment sur le sujet de l'insécurité à l'est du pays ont tendance à ne miser que sur la venue prochaine de la fameuse brigade internationale avec un mandat offensif. Et on a tendance à oublier que la mission première du gouvernement, de l'État disons, c'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Plutôt que d'attendre la brigade, encore que cette fameuse brigade là sera composée d'à peine 3000 éléments. 3000 éléments. Le maire de la ville de Beni l'a dit tantôt. Beni, Lubero, c'est des territoires au relief assez compliqué. Et je doute fort que les 3000 militaires de la MONUSCO qui vont venir soient capables de tenir depuis le petit nord, ça veut dire Goma, Routoué, Consor, jusqu'à Beni.
Et donc en passant, il faut saluer l'effort des FARDC qui ont repris le contrôle de la ville.
Oui, absolument, même si bon, il faut quand même dire que tous ces groupes armés qui arrivent, qui attaquent Beni, ils ne sont pas si structurés que ça. Donc ce qui aurait surpris, ça aurait été que ces Maï, avec des flèches et des lances, ils prennent Beni.
Professeur Bouindoua, vous êtes politologue et professeur à l'ISC Uvira au Sud Kivu. Vous êtes directeur du Centre de Recherche et d'Études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur, plus de 30 morts dans ces violents affrontements qui ont eu lieu hier à Beni. Aujourd'hui, le calme est revenu. Professeur, comment vous analysez cette situation?
Quand vous me demandez de pouvoir analyser, j'ai tout simplement envie de revenir à quelque chose que nous disons dans cette émission depuis très longtemps, c'est dire que tout simplement notre pays a le malheur d'être celui qu'il est, c'est que nous avons un État qui est véritablement en faillite, en dysfonctionnement, en absence, j'allais dire en non-présence, pratiquement en démission, dans deux aspects essentiels, à savoir l'idéologie et la répression. Je n'arrive pas à comprendre d'aucune manière. Allô?
Oui, professeur, vous êtes en ligne, on vous suit.
Oui, je n'arrive pas à comprendre que dans des situations aussi dramatiques que celles qui sévissent dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu, jusque-là, on ne voit pas la répression de telle manière que l'armée puisse dissuader les gens qui viennent de l'extérieur et que par contre, par ailleurs, à l'intérieur, la police, la gendarmerie puisse vraiment se saisir de tout ce qu'ils mettent, comment dirais-je, à feu et à sang à la vie de principes citoyens. C'est que tout simplement, quand on regarde la situation du Congo, on est vraiment effaré de remarquer que, d'une manière ou d'une autre, on entretient des forces centripètes et des forces centrifuges qui, au fait, prennent en sandwich et en otage les populations. Par ailleurs, on a des frontières gruyères. Enfin, et puis en troisième lieu, on a une décentralisation annoncée, puis dénoncée, et à la limite, les gens qui sont en prise directe avec tout ce qui touche la sécurité des gens n'ont pas assez de pouvoir pour pouvoir se défendre. Aussi, nous trouvons, d'une autre manière, que les exécutifs provinciaux jouent un rôle pratiquement pro-consulaire. C'est-à-dire que le maire, le gouverneur de province sont attentistes, soit attendant les décisions de l'international, soit attendant les décisions de Kinshasa. Est-ce que j'ai comme l'impression de se déconnecter?
Professeur, vous dites que les exécutifs provinciaux jouent un rôle consulaire. Cela ne dépend-il pas de leurs attributions aussi?
J'ai comme l'impression que face à des réalités, à des menaces réelles, directement, ces exécutifs vraiment sont attentistes, attendant de Kinshasa ou bien de l'international toutes les mesures à prendre. J'ai entendu Monsieur le maire, et d'ailleurs que je salue, l'honorable Thiro, je le salue aussi, mais vraiment j'ai comme l'impression que les populations de l'Est, face à environ 145 millions de gens qui les entourent, ne peuvent pas du tout fonctionner avec un État qui fonctionne de l'autre côté de la République, qui voit les problèmes de l'Est comme si c'était des problèmes totalement étrangers. Et j'ai comme l'impression qu'on ne voit pas du tout l'impact d'une armée ou bien d'une police qui se consacrerait à défendre nos frontières et à sécuriser la vie des gens. Et par ailleurs, on remarque que les services de sécurité et des renseignements sont obsolescents. Leur remise à l'État devrait se faire très directement.
Professeur,
enfin, nous avons... Oui.
Professeur Iya Baloumé Loubereki, qui nous écrit de Massissi au Nord Kivu, qui dit « L'insécurité au Nord Kivu est due à la non-intégration des groupes armés opérant dans les Kivu, et presque tous ces groupes armés sont congolais, professeur. »
Je ne pense pas, je ne crois pas, je n'aimerais pas qu'on puisse intégrer des forces, quelles qu'elles soient. Les gens qui prennent les armes contre la République doivent s'assurer que la République réplique et puis réprime. Je pense qu'on a trop joué à cajoler des gens qui prennent les armes contre la République, affaiblissant ainsi et la République et l'État. C'est ainsi que le peuple assiste un peu impuissant à une sorte de naufrage de notre appareil étatique, et on se retrouve s'étonnant que du jour au lendemain, un général quelconque, il s'autoproclame par ailleurs, un colonel quelconque se dit que il va attaquer pour oui ou pour non parce qu'il n'est pas content de telle ou telle mesure. Je pense tout simplement que l'État doit tout simplement agir, comme disait Louis Althusser, par l'idéologie et par la répression, ou bien tout simplement utiliser de manière efficiente, efficace, ce qu'on appelle le monopole de la violence physique légitime.
Monsieur le maire Bwanakawa, qui sont véritablement ces assaillants et quelles étaient leurs revendications?
Monsieur le journaliste, je crois, avant que je ne réponde à votre question, il aurait été souhaitable que je réagisse par rapport aux interventions de mes co-débatteurs.
Allez-y, je vous en prie.
Je salue en passant. Je salue véritablement mon frère, l'honorable Thiro, et je salue aussi le professeur. Je voudrais préciser une chose. Dire que la partie Grand Nord, si pas la province du Nord Kivu en général, serait caractérisée par une absence de l'État, et c'est une qualification qui ne peut que engager celui qui a fait cette déclaration-là. Je crois, rien qu'à voir le bilan des affrontements montre que tous les services ont fonctionné normalement. Comme l'administration ne se fait pas par la radio ou bien par les médias, nous ne pouvons pas dire « voilà les informations que nous avons eues avant les affrontements ». Ceux qui ont eu à suivre mes déclarations à travers certaines chaînes, je crois qu'ils se souviennent trop que j'avais bien prédit que toutes les dispositions sont prises pour défendre la ville de Beni au cas où il y aurait une quelconque attaque. Et j'ai toujours souligné que la ville de Beni n'a jamais été encerclée par un quelconque groupe armé. Encercler, nous devons parler français, nous devons comprendre ce que veut dire encercler. Encercler, ça veut dire presque prendre en étau. Et rien qu'à voir le bilan, la défaite véritable que nous avons fait subir à l'ennemi, on comprend que tous les services ont fonctionné. Ça, c'est un. De deux, le fait que ma résidence ait fait l'objet d'une attaque de la part de ce voyou-là, ce n'est pas à dire que c'est ça qui soit l'indice véritable que la ville de Beni est véritablement insécurisée. Je vis chez moi, dans ma modeste personne, avec tout, dans ma maison personnelle, avec toute ma famille, sans garde. Je vivais chez moi sans garde, parce que je ne me reprochais de rien. Mais voilà que certains voyous avaient pensé que pour monter leur emprise sur un certain territoire, il fallait qu'ils viennent chez moi, profitant de l'inadvertance de mes compatriotes, ainsi que de services, pour s'infiltrer chez moi avec pour objectif de me tuer. Là, je veux bien préciser, parce que moi, il y a un Maïmaï que nous avons capturé hier, qui a reconnu que dans leur base, une réunion s'était tenue, et après avoir tenu cette réunion, il avait été question que M. le maire arrive à être liquidé.
Monsieur le maire.
Liquidé pourquoi? Parce que M. le maire représente bel et bien le pouvoir du président Kabila et du gouverneur Julien.
Monsieur le maire.
Véritablement vérifiable sur terrain au
Monsieur
niveau de la ville de Bénin.
Monsieur le maire.
Les deux motifs.
Monsieur le maire. Monsieur le maire, est-ce que vous me suivez, monsieur le maire?
Je vous suis.
Voilà, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbanzangungu Bakongo.
Pascal Kitenge, IFP Mbanzangungu Bakongo. La triste situation qui a prévalu à Beni démontre à suffisance l'inexistence de l'autorité de l'État et du laxisme des autorités locales. En fait, gouverner, c'est prévoir du temps. Jusqu'à quand notre État va-t-il cesser d'être un sapeur-pompier? Lorsqu'on rêve de la paix durable dans un pays, mais en fait, je crois qu'on doit préparer constamment la guerre, car la paix se mérite et se gagne.
Très brève réaction, monsieur le maire.
Très brève réaction. Ça rentre dans le cadre de ce que j'étais en train de dire. J'ai dit que tout celui qui confirmerait que tout ce à quoi nous avons assisté semble montrer qu'il y a l'absence de l'État, il se trompe.
Et donc,
mais par contre, il faudra que Je vous en prie.
Oui, terminez votre idée, monsieur le maire. On n'a plus beaucoup de temps. Je vous en prie.
Mais il faut que j'explique ce qui semble ne pas marcher à Beni en particulier,
allez-y,
au nord Kivu en général.
Allez-y,
alors,
monsieur le maire,
quand je suis victime de certaines interruptions, ça fait que ma file d'idées est en train d'être coupée.
Voilà, monsieur le maire, écoutez-moi, monsieur le maire, écoutez-moi, s'il vous plaît, le principe de cette émission. Dans cette émission, vous êtes trois intervenants. Alors, vous êtes largement en avance sur le temps. Vous avez 12 minutes par rapport à tous les autres invités. Si on doit vous garder seul, on va monopoliser la parole et l'émission va perdre son sens. Honorable Kiro venait de suivre le maire qui dit que tous les services ont fonctionné. Comment vous y réagissez?
Je suis désolé de devoir contredire mon frère et ami monsieur le maire de la ville, parce que si les services avaient fonctionné, on n'aurait pas un bilan aussi lourd que celui-là. Encore que ça, c'est le bilan officiel. Il y a certaines sources indépendantes qui parlent de plus de, en ce qui concerne notamment nos FRDC tués, il y en a qui parlent de plus de 4 ou 5 que le maire a bien voulu reconnaître. Donc je crois que si les services fonctionnaient effectivement, on n'en serait pas arrivé là. On en serait arrivé notamment à une situation où, étant donné les informations qui avaient circulé de l'aveu même du maire de la ville, les informations qui avaient circulé tendant à prévoir une imminente agression, je crois qu'on aurait pu organiser des patrouilles nocturnes et on n'en serait pas arrivé là, parce que comme il l'a si bien dit au début de son intervention, monsieur le maire, les 32 Maïmaï qui ont été tués, on ne peut pas s'en réjouir parce qu'il s'agit de nos compatriotes, il s'agit de nos frères, il s'agit de nos enfants. On aurait bien aimé les garder parce qu'effectivement, il semble qu'ils soient victimes de la manipulation de certains. Donc, je crois que si les services avaient bien fonctionné, on n'en serait pas arrivé à un bilan aussi lourd que celui-là.
La manipulation de certains politiciens.
Certainement, certains politiciens ou autres, parce que Le Kivu, là, c'est quand même une débileuse. Hein.
Alors, honorable, il nous reste moins de 12 minutes pour terminer cette émission. En guise de solution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y avait déjà un dialogue social, j'en parlais tout à l'heure, qui a été organisé. Vous avez fustigé le fait que ce dialogue, que les mécanismes de suivi, d'application n'aient pas été enclenchés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme l'a si bien souligné le professeur Bioya.
Bouendwa.
Excusez-moi. Il faut que nous ayons des services de l'État capables de réprimer. La crainte du gendarme, on peut dire tout ce qu'on veut, la crainte du gendarme, c'est le commencement de la sagesse. Il faut que la population, il faut que tout le monde sache que s'il va recruter 5, 10, 50 éléments pour commencer à semer des troubles à gauche et à droite, il y a l'État qui va sévir. Qu'est-ce qui fait que les gens ont tendance à se constituer en bandes armées? C'est parce qu'il n'y a pas de répression. Tout le monde sait que ici, le Congo, c'est la capitale mondiale de l'impunité. La vérité, c'est celle-là. Maintenant, ceci étant, à part l'aspect répressif, il faut aussi sécuriser les uns et les autres. Il faut sécuriser les uns et les autres à travers ce que vous appelez ce qu'on a bien voulu appeler un dialogue social. Dans le dialogue social, il faudra qu'il s'étende pas seulement à la ville ou au territoire de Beni, mais il faudra qu'il s'étende aussi à toute la province du Nord Kivu notamment.
Par exemple, en ce qui concerne ces Maïmaï, faut-il les écouter? Faut-il écouter leurs revendications? Faut-il dialoguer avec eux? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à eux?
Je crois que dans la mesure où nous n'avons aucune solution militaire contre eux, et que ce sont des compatriotes, ce sont des Congolais comme nous, il vaut mieux écouter leurs revendications et puis les peser, parce que peut-être qu'il y a des revendications fondées. S'il y en a qui sont fondées, ben écoutez, dans le cadre de ce qui a été commencé au dialogue social, eh ben on va chercher de tenter d'y trouver des solutions. Si elles sont infondées, eh ben on va leur dire qu'elles sont pas fondées, et voilà, on va passer à autre chose.
Professeur Bouendwa, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient une fois de plus de Bounia en province orientale.
Dans la province orientale. La situation qui est arrivée à Beni n'est pas surprenante parce que les rumeurs sur l'attaque des villes de Beni courent depuis un mois. Cela prouve insuffisante la négligence et la passivité de notre gouvernement. La solution reste le dialogue avec cette milice afin de comprendre leur cahier de charges. Les armes sont en train de tuer la population congolaise gratuitement.
Professeur Bouendwa, il faut dialoguer avec ces milices en guise de solution. Propose au Chai Babi.
Je suis vraiment un peu malaisé parce que c'est vrai que, parlons un tout petit peu de l'État, j'ai comme une singulière envie de dire que l'État fonctionne par deux mamelles, à savoir l'idéologie et la répression d'un côté, mais aussi l'utilisation à toute épreuve de monopole de la force, de la violence physique légitime. Mais comme je devais répondre un tout petit peu à M. le maire, j'avais pour lui une petite phrase que j'avais collectionnée de M. George Bush, que je n'aime pas spécialement, mais bon, qui était sa phrase de leitmotiv, que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Il vaudrait mieux quand même qu'on puisse arriver à dire certaines choses et non pas tout simplement croire que en se disant que les institutions en place marchent très bien, les services marchent très bien, que on arrive à résoudre les vraies questions. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, peut-être demain le Katanga, peut-être d'autres endroits, nous sommes en une situation assez particulière, ce que nous sentons très bien que l'impact de l'État sur la réalité nous touche d'une manière assez singulière. Et cet impact-là doit être analysé, exposé, à telle enseigne que demain on puisse prévoir un État qui fonctionne comme tous les États, c'est-à-dire qui fait peur, que les gens à l'intérieur aient la peur du gendarme, mais qu'à l'extérieur ils sachent aussi bien que on peut les attaquer à tout instant sans devoir attendre les oukases des gouvernements étrangers ou bien des organisations internationales.
Professeur, il nous reste moins de 7 minutes pour terminer l'émission. Vous parlez de demain, il faut restaurer l'État, mais ici et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on est en urgence.
En urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne pense pas du tout qu'on se mette en conciliabule à l'infini. Ici et maintenant, c'est d'arriver tout simplement à faire aussi que les populations se sentent concernées, que moi je suis en Tanzanie parce que j'y vais très souvent, il y a ce qu'on appelle les sungu-sungu. Les gens, en fait, se prennent ce que nous avons appelé l'auto-prise en charge. J'ai comme l'impression que nos populations, face à un pouvoir absent, face à aux peurs qui sont les plus nombreuses, se donne à qui mieux, et on se retrouve dans une situation où réellement les gens ne se prennent pas en charge. Il faudrait bien écouter localement le fameux coup d'été de mer, compter sur soi-même, bouter dehors ce qui apporte un peu tous les éléments de perturbation, et je pense que les dialogues à l'infini ne sont pas la solution, beaucoup plutôt former une armée, une police, une gendarmerie qui dissuade et qui permette à l'État de fonctionner de manière maximale.
Professeur, en guise de conclusion, vous dites que la population devrait se prendre en charge. Cela voudrait-il dire, par exemple, aussi, se désolidariser de ces groupes armés?
C'est désolidariser totalement de ces groupes armés, parce que les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu souffrent de ces gens-là qui tantôt produisent à côté, je ne sais pas du manioc, qui viennent vendre sur le marché, achètent des kalachnikovs pour aller guerroyer, je ne sais pas, avec les populations aux alentours. Mais bon, il faudrait bien savoir que le développement commence aux alentours, et là où on est, et sécuriser son entourage serait la première des choses pour toutes les populations qui sont en proie à toutes ces violences et à toutes ces injustices.
Monsieur le maire Bwanakawa, faut-il dialoguer avec ces Maïmaï pour connaître leurs revendications? Qu'est-ce que vous entrevoyez?
Exactement ce que j'ai voulu dire avant, mais malheureusement vous m'avez interrompu. J'ai dit ceci. Il faudra savoir qu'au Nord Kivu, il y a déjà eu une conférence à Goma qui n'a pas produit de fruits. Dernièrement, il y a eu un dialogue social à Wicha. Quand on a réuni tout le monde là-bas, il n'y a pas une raison plausible qui puisse expliquer pourquoi est-ce que les uns et les autres peuvent se retrouver au maquis. Mais il faut que je prenne au mot la déclaration de mon frère, l'honorable Kiro, qui a reconnu que l'insécurité au Nord Kivu, c'est l'œuvre de certains politiciens. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, la question que vous me poseriez, faudra-t-il parler avec ceux-là? Non, plutôt il faudra demander à ceux-là de cesser de faire de nos enfants des chairs à canon. On l'a vu depuis très très longtemps, depuis Goma jusqu'à Beni, à partir du moment où l'honorable Kiro lui-même le reconnaît. Voilà la seule recommandation véritable que nous puissions faire à travers tout celui qui aimerait le Nord Kivu. Nous avons vu d'autres provinces qui ont été en proie à la sécurité, mais seulement parce que le fils de ce coin s'était véritablement impliqué dans la recherche de la paix. Merci. Et la paix a été retrouvée.
Merci,
honorable. Étant donné qu'au Nord Kivu, nombreux de nos fils sont impliqués dans la recherche de l'insécurité, et merci, l'insécurité est une réalité vivante.
Merci, honorable Kiro, vous sembliez ne pas être d'accord avec le maire quand il vous indexait tout à l'heure.
Ah non, dire que je suis pas d'accord avec lui, non. L'insécurité au Nord Kivu, c'est vrai qu'elle a plusieurs causes. Et je répondais tantôt à une question posée par vous, de savoir qui manipulait tous ces jeunes gens-là. Vous avez demandé s'il y avait des politiciens. J'ai dit certainement qu'il y a des politiciens, mais aussi d'autres, parce que j'ai bien dit que tous ces groupes armés constituent une véritable nébuleuse dont personne ne sait cerner les véritables contours. Mais je crois que l'essentiel, c'est la répression. Bien sûr qu'il faut un dialogue, mais il faut surtout la présence de l'État. Parce que, quand M. le maire dit que dans d'autres provinces, il y a eu dialogue entre les fils du coin et que la sécurité est revenue, écoutez, là, j'imagine qu'il veut faire allusion au Katanga, mais tout le monde s'imaginait qu'au Katanga, il y avait un dialogue et que les choses marchaient bien, mais on s'est rendu compte du contraire il y a à peine un mois, à l'occasion de l'attaque des Katakatanga. Donc, je crois que l'absence de l'État ne se manifeste pas seulement à Beni ni au Nord Kivu, mais c'est pratiquement partout. Figurez-vous que même à Kinshasa ici, moi je suis venu un jour à la télévision, où un commissariat de police avait été attaqué par des Koulounas armés de gourdins et de machettes et qui ont fait fuir toute la police. Donc il y a un problème de refondation de l'État. Je crois que c'est l'État dans son fonctionnement actuel qui a failli et qu'il faut absolument refondre.
Alors, un mot honorable à toute cette population de Béni qui est en train de vous suivre maintenant. Juste un petit mot pour les encourager et les soutenir.
Kuona namuna gani yenye banaweza saidiana pamoja na serikali kusudi la sécurité rudir.
Monsieur le maire, un mot également à toute la population de Beni qui vous suit en guise de conclusion.
Je veux dire juste un mot. La population, merci beaucoup pour nous avoir soutenus et pour continuer à nous soutenir dans ces différentes épreuves.
Merci.
Mais plutôt, j'adresse le mot aux politiciens. La population de Beni a besoin de la paix pour avoir son développement.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur Radio Capi.